Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info, jusqu'à minuit, deux heures pour comprendre, débattre, décrypter des grands thèmes d'actualité au sommaire, notamment ce soir les alliés franchissent un nouveau cap en fournissant des armes lourdes à l'Ukraine, c'est-à-dire des chars, pour empêcher notamment l'avancée des troupes russes. Le président Joe Biden lui aussi annonce l'envoi de chars Abrams aujourd'hui. La ligne rouge est-elle en train d'être franchie vis-à-vis de la Russie? Débat à suivre dans ce Soir Info. La réforme des retraites, va-t-on vers l'escalade? Les syndicats unis appellent à multiplier les mobilisations sur le terrain ou dans les entreprises d'ici le 31 janvier. Certaines actions vont commencer rapidement demain dans les raffineries. Les lycéens appellent également à descendre dans la rue. Peut-on éviter le blocage du pays ou est-ce trop tard? Là encore, nous en discuterons. Et puis le Sénat qui examine depuis aujourd'hui la loi sur l'organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu, vous le savez, à Paris dans un an et demi maintenant. Un événement majeur, planétaire, qui va attirer des milliers d'athlètes. 600 000 personnes attendues pour la cérémonie d'ouverture. 13 millions de spectateurs sur un mois presque. Est-ce que la France est prête en matière de sécurité et de transport? Eh bien, à 548 jours de l'événement, la réponse est non. Gabriel Cluzel, bonsoir. On va évoquer tous ces sujets ensemble, mais pas seulement. Hein. Vous verrez qu'il y aura d'autres thèmes abordés. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, merci d'être là. Merci à Régis Le Sommier de nous accompagner également ce bonsoir, soir. Directeur de rédaction Omerta. Vous revenez d'Ukraine.
Absolument.
Eh bien, on va en discuter dans quelques instants avec vous. Karima Brik, évidemment, est présente, comme tous les soirs. Bonsoir, cher Karima. Bonsoir, Johan, du service
bonsoir,
politique.
Bonsoir, Julien.
Johan Uzaï. Je vous appelle Johan, tellement on passe de temps ensemble. Et Philippe Guibert.
Bonsoir.
Enseignant, Julien. Consultant. Merci d'être là également pour cette soirée d'information. On démarre les thèmes et les discussions juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les syndicats unis contre la réforme des retraites. L'union intersyndicale appelle à une forte mobilisation le 31 janvier prochain et à multiplier les actions. Les huit principales organisations ont donné une conférence de presse cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est notamment exprimé.
Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
Le trafic reprendra presque normalement demain à la gare de l'Est. Information de la SNCF après deux jours de réparation. Trois TGV sur quatre sont prévus. Mardi, des câbles électriques ont été endommagés par un acte de sabotage. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête. Le chômage a reculé en France en 2022 avec 114 000 inscrits à Pôle emploi en moins, au quatrième trimestre. Selon les chiffres du ministère du Travail, le chômage a baissé de 3,6%. Il retrouve son plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011. Une étudiante agressée au couteau dans un campus universitaire. Il se situe à Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris. Selon le parquet de Paris pour CNews, la victime est grièvement blessée. Son pronostic vital n'est plus engagé. Il s'agit d'une femme de 32 ans née en Algérie. L'agresseur présumé va être hospitalisé en vue d'une opération. Un étudiant du campus s'est exprimé au micro de CNews.
Moi, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est que j'ai vu dans les escaliers qu'il y avait du sang jusqu'au... Moi, j'ai cours jusqu'au quatrième étage, donc j'ai vu jusqu'au quatrième étage du sang dans les escaliers. Et moi, j'ai des potes qui sont montés au septième et il y avait du sang et au septième, il y a vraiment beaucoup de sang.
Et puis les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. C'est Joe Biden qui l'a annoncé aujourd'hui. Kiev réclame depuis plusieurs semaines des chars aux Occidentaux pour repousser l'invasion russe dans le pays. L'Allemagne donne également son feu vert. Voilà Julien pour l'essentiel de l'actualité à 22h.
Et merci Adrien. On va revenir d'ailleurs sur cette dernière information dans une poignée de secondes. L'Allemagne, les États-Unis, vous venez de le dire, qui promettent des chars à l'Ukraine, et la France dans tout ça. On verra la décision du président Macron. Comment interpréter cette séquence? Soutien nécessaire dans la victoire de la démocratie, risque inconsidéré au contraire d'une nouvelle escalade? On se pose ces questions dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, donc en compagnie de Régis Le Sommier, Philippe Guibert, Gabriel Cluzel, Karim Abric, Johan Usaï. On évoque l'actualité internationale dans ce premier thème, cette première partie. Et l'Allemagne qui a donc donné son feu vert aujourd'hui officiellement à la livraison de chars Léopard en Ukraine après des semaines d'atermoiement. La décision de l'Allemagne officialisée donc pourrait changer la donne, car on ne parle pas de quelques chars, mais bien d'une centaine en tout si on additionne d'autres pays. Et puis le président Joe Biden aujourd'hui qui prend la parole quelques heures après l'annonce allemande pour annoncer lui aussi l'envoi de 31 chars Abrams. Que cela peut-il changer? Est-ce un risque pris par les alliés dans une éventuelle escalade? Écoutez d'abord le président américain et le porte-parole du Kremlin qui répond à ces annonces, Dmitri Peskov.
Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire Austin a recommandé cette mesure parce que cela renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques.
Si nous prenons la situation actuelle de facto, en particulier en Europe et dans le monde, la situation est extrêmement tendue. Les perspectives d'évolution de cette situation, compte tenu de la ligne qui a été choisie par l'OTAN, dirigée par les États-Unis, ces perspectives ne permettent pas d'envisager une quelconque désescalade.
Et je salue la présence par vidéo du général Bruno Clermont. Bonsoir mon général, merci d'être avec nous, consultant défense. J'ai envie d'ouvrir cette discussion avec vous parce que ce Léopard 2 qui arrive par dizaines, ces chars Abrams également que va livrer le président Biden, les Ukrainiens vont pour la première fois disposer de chars lourds, de chars mobiles, de chars modernes. Est-ce que c'est un tournant dans ce conflit qui est en train de s'opérer?
Alors on verra si c'est un tournant lorsque les chars seront sur le théâtre et rentreront dans la bataille. Pour l'instant, on est à organiser les bataillons, à recenser les pays qui vont livrer des chars Léopard. Vous l'avez dit, pour l'instant, il y en a 88 qui sont identifiés, deux bataillons de 44 sur des standards différents, mais ça, c'est 6 pays qui offrent leurs chars Léopard. Il y a encore 6 pays ou 7 pays qui peuvent en rajouter. Donc on devrait arriver entre les Léopard, les Challenger et les chars américains à entre 150 et 200 chars au total. Ce qui est encore loin des 300 chars que réclamait la présidente Zelensky, mais quand même un chiffre considérable.
Pourquoi les Allemands bougent maintenant et à un tel niveau?
Je pense qu'ils ont une très grosse pression de la part de l'Ukraine, de la communauté internationale, parce qu'en réalité, ils détenaient la clé. Et ils détenaient la clé dans la mesure où ils avaient la licence qui permettait que les pays détenteurs de ces chars puissent les livrer à l'Ukraine. Donc en fait, ce n'est pas l'Allemagne qui est la plus importante, ce ne sont pas les 14 chars que l'Allemagne va donner, c'est toute la dynamique qui est créée qui va permettre d'envoyer plus de 100, peut-être 150 chars Léopard sur le théâtre. Et pour ça, ils ont quand même réussi à tordre le bras des Américains, puisque les Américains étaient très opposés à la livraison de chars Abrams, ils l'avaient dit, pour des raisons techniques. Et aujourd'hui, ils ont été obligés de se plier à l'exigence du chancelier Scholz, qui est de dire « je ne le ferai » qu'à la condition que les Léopards ne soient pas seuls sur le théâtre. S'il y a une escalade ou une gradation marquée, elle doit être faite également par les Américains.
Vous restez avec nous, Général Clermont. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de plateau, notamment également avec Régis Le Sommier. Régis, il y a encore 24-48 heures, vous étiez sur le théâtre des opérations, comme on dit, à Bakhmout très précisément. Vous avez vu de vos yeux comment se déroulent les derniers jours de combat. Je voudrais juste préciser donc que l'ambassadeur russe en Allemagne a dénoncé une décision extrêmement dangereuse de Berlin de livrer ses chars. C'est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation, dit-il, Sergueï Netchaev. Forcément, nous, on regarde tout cela de France, avec les yeux français, l'inquiétude également qui peut être la nôtre depuis 11 mois maintenant de voir ce conflit à nos portes. On voit cette Allemagne qui montre les muscles en rappelant notamment que les Allemands sont capables de se passer du gaz russe, en effet. Mais nous, ça nous engage aussi un petit peu ces déclarations. D'abord, est-ce que les Français vont suivre le mouvement avec pourquoi pas des chars Leclerc? Et ce rapport de force que les Allemands sont en train d'installer face aux Russes, est-ce que nous-mêmes, on est capable de l'avoir?
Nous, face aux Russes?
Ouais.
Non, je pense qu'on n'est pas dans le jeu.
Face à la dépendance, notamment au gaz.
Oui, la dépendance au gaz, il faut d'abord préciser que nous, par rapport au gaz, par rapport aux Allemands, on était moins dépendants du gaz russe, nettement moins, et en général des hydrocarbures, grâce en particulier à ce qui nous reste du fameux, oui. De notre fameuse notre particularisme lié à l'énergie nucléaire. Donc, oui, de ce point de vue-là, on était moins liés. Maintenant, pour revenir sur cette décision allemande et sur la décision américaine qui intervient aussi, alors que une semaine auparavant, les officiels du Pentagone disaient que ça serait très compliqué, ça reste toujours d'ailleurs très compliqué, y compris pour les Léopard 2, de faire fonctionner ces chars par des équipages ukrainiens, de les former avec suffisamment de...
Apparemment, certains Ukrainiens sont d'ores et déjà en Allemagne, oui, sur base, pour être justement
bien, Julien,
formés
que ces décisions-là, ces décisions d'Olaf Scholz concomitantes avec celles de Biden sont faites alors que le mouvement est déjà précis. Les chars sont déjà sur les rails, enfin sur les trains, pour être envoyés en Ukraine. Donc il y a déjà une logistique déployée autour de ça. Maintenant, il va falloir, comme le disait le général Clermont, plusieurs mois avant qu'on les voit, leur effectivité sur le terrain. Et ce qui, à mon avis, d'après ce que j'ai vu à Bakhmout, notamment j'y suis allé donc dans à la suite de la conquête de Soledar, et j'ai pu aller sur les lignes de front au nord de Bakhmout, hein, dans la zone de Kremina Slatovo, qui est une zone en fait où les Russes, on sent bien, exerce une pression en ce moment qui se renforce, bien sûr. Aujourd'hui, ils ont pris une partie, sont rentrés dans la ville d'Ugledar, qui est une ville proche de Marinka, donc proche de Donetsk, au sud, ça c'est, je parle du front sud, et ils ont grignoté une quarantaine de villages aussi du côté de Zaporijja. Donc, il y a dans cette offensive, il n'y a pas d'offensive russe officielle en ce moment, mais il y a un grignotage et une certaine, je dirais, fébrilité du côté ukrainien, notamment liée à des problèmes de ravitaillement. Comme on l'explique très souvent, mais c'est encore plus le cas en ce moment, le problème des lignes ukrainiennes, c'est qu'elles sont très longues. C'est-à-dire que l'acheminement du matériel, y compris du matériel occidental, met très longtemps à arriver sur les lignes de front. Et je précise, par exemple, c'est très important, parce que moi j'ai vu les Russes à la manœuvre, et en face, les Ukrainiens envoient en effet beaucoup d'artillerie. C'est énormément de duels d'artillerie. Hein. C'est Verdun là-bas. Hein. Les lignes de front, c'est absolument atroce. Ce sont des explosions d'obus gigantesques en permanence, nuit et jour, mais ce sont des obus de fabrication russe. Les artilleurs russes nous disaient... En face, ils nous envoient la même chose que ce qu'on leur envoie. Il n'y a pas d'armes occidentales, il n'y a pas de HIMARS.
Ces chars, ils vont changer la donne.
Ces chars peuvent changer la donne, mais je peux vous dire que les chars russes sont aussi à la manœuvre. Moi, j'ai vu des T-90 qui sont les derniers chars, la dernière technologie.
Parce qu'il y a des chars russes qui sont sur le point de sortir d'usine également, et qui
bien
sont
sûr,
tout
y a
aussi
les
performants que les Léopards, voire plus.
Tout à fait. Donc, mais là, en plus petite quantité. Donc, si vous voulez, oui, ça va faire sans doute rétablir un certain équilibre. Alors qu'on sent un certain effritement possible côté ukrainien.
Il y a ce rapport de force qu'il est important de décrire, et merci de l'avoir fait sur le terrain ces dernières heures, et l'évolution du rapport de force. Donc, mais il y a aussi la question qui nous intéresse, donc Philippe Guibert, plus directement, à quel point les alliés doivent-ils, peuvent-ils continuer à s'engager ? Cette ligne rouge des chars est-elle en train d'être franchie vis-à-vis de la Russie ? Et donc, est-ce que la France doit accompagner cet effort, pourquoi pas livrer des chars Leclerc, comme le propose d'ailleurs ces derniers jours un de nos responsables politiques, hein, pour ne pas le nommer, Xavier Bertrand.
Oui, mais je crois que ça va être le cas.
Est-ce qu'on doit franchir cette ligne ?
Mais d'une certaine manière, on...
Parce que là, pardon, hein, mais la notion de belligérance, il va falloir me l'expliquer à un moment.
Non, parce qu'en droit international, je parle sous le contrôle des spécialistes, peut-être du général qui nous écoute...
Il répondra.
L'équipement, le fait de donner des équipements militaires n'est pas considéré comme une co-belligérance. Vous allez me dire que c'est un peu jésuitique et que c'est un peu subtil, mais la réalité, c'est que juridiquement, ce n'est pas considéré comme un acte de co-belligérance.
Est-ce que Vladimir Poutine considère juridiquement les
oui,
choses ?
Oui, mais Vladimir Poutine aurait pu considérer les choses tout à fait autrement, parce que, je prolonge ce que disait Régis, quand même ce qui se profile, c'est une contre-attaque russe qui est attendue pour le printemps, avec la fameuse mobilisation des réservistes et autres.
Elle est déjà cette mobilisation.
Et elle a commencé
déjà à l'entraînement.
Et elle a commencé déjà. Ce que vous disiez témoigne d'une volonté de contre-offensive de Poutine, dont on pense qu'elle va s'accentuer au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin février ou du mois de mars. Donc, face à ça, qu'est-ce que les alliés de l'Ukraine peuvent faire ? S'ils laissent tomber l'Ukraine maintenant, alors que l'Ukraine a reconquis sur les 20% qu'avait la Russie du territoire, ils en ont repris 5%, à la louche, et la Russie à 15%. Poutine, s'il était rationnel, et s'il était un grand politique, comme on dit,
ça arrêterait là.
Il dirait, mais écoutez les amis, moi j'ai 15% du territoire ukrainien, vous savez très bien que je ne le lâcherai pas, on se met autour de la table de négociation et on revient à la discussion, on repart sur les bases de Minsk. Et là, on commence à discuter. Il était quand même sur, depuis l'automne, sur une série de défaites, de revers militaires. Il aurait pu tout à fait considérer qu'il pouvait obtenir... Je pense que tous les alliés européens occidentaux de l'Ukraine auraient sauté sur l'occasion pour revenir à la table des négociations. Il n'a pas fait ce choix.
Justement.
Donc face à ce choix de Poutine qui est de continuer la guerre par des moyens militaires... Que peuvent faire d'autres les alliés occidentaux? Pour l'Allemagne, c'est un vrai choc, c'est un vrai changement.
Ah, bien sûr, qui s'est démilitarisé, on le rappelle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
C'est un vrai changement d'époque. Nous, on est habitués à intervenir, et même beaucoup plus directement qu'on ne le fait en Ukraine, mais où jamais. C'était le vrai.
Je voudrais juste interpeller. Les Panzers qui reviennent en Ukraine,
oui,
alors
c'est
que
un symbole,
quand on sait ce qu'ils ont fait.
Mais c'est pas pour, du tout pour les mêmes raisons et dans le même contexte.
Non, mais
ça, c'est l'argument des Russes. Hein, regardez, ces charlemagnes qui reviennent à l'Est, ça nous rappelle de drôles d'heures.
Mais ils sont permanents. Vous ne pouvez pas comprendre l'Ukraine. Des deux côtés, vous ne pouvez pas comprendre l'Ukraine.
On ne doit surtout pas tomber dedans. On ne doit surtout pas tomber dedans. C'est la stratégie de Poutine.
Nous sommes là pour parler, pour essayer d'expliquer un conflit.
Ouais, mais c'est la
stratégie de Poutine.
C'est la propagande de Poutine.
Temps, messieurs, s'il vous plaît.
Attendez, moi j'en reviens. J'ai discuté avec des habitants, j'ai discuté avec des gens qui ne sont pas favorables aux Russes, mais qui sont sous occupation russe. Je peux vous dire que ce souvenir, vous êtes dans des... les soldats russes aujourd'hui sont dans certains points, parce que c'est toujours les mêmes endroits qu'on fortifie, c'est les endroits que tiennent les deux belligérants, sont des endroits en hauteur en général, parce que stratégiquement mais je vous explique les choses, j'en reviens du terrain, laissez-moi m'expliquer. Ce que je veux vous dire, c'est que on retrouve, ils réoccupent des tranchées de la Seconde Guerre mondiale.
D'accord, c'est pas une raison.
Non, mais oui, alors, je comprends. La résonance, elle est permanente.
Non, c'est pas une raison.
Quand vous avez... S'il vous plaît, messieurs, vous êtes les seuls à avoir parlé sur le plateau et je voudrais me retourner voir également le général Clermont. Moi, je reste un dernier instant, s'il vous plaît, général, sur cette notion de belligérance, parce que vous livrez des chars, mais vous montez pas dedans, donc vous n'êtes pas en guerre. C'est quand même très hypocrite, surtout très dangereux, je trouve, et j'ai cette impression, mais c'est à vous de la confirmer ou pas, que chaque char envoyé est un pas en arrière vers une solution diplomatique, aussi. C'est en cela que je me pose la question de l'intérêt d'aider aussi lourdement les Ukrainiens.
Vous abordez plusieurs sujets dans la même phrase. Hein.
C'est pas faux.
Moi, je reviens sur la question de la co-belligérance, qui effectivement pas un concept juridique dans ce cas-là, mais je pense qu'il y a une dimension qu'il faut bien comprendre dans la rhétorique, dans la sémantique du vocabulaire utilisé par les Occidentaux entre armes défensives et armes offensives. C'est évident qu'un char, il peut être une arme offensive si vous êtes en offensive et défensive si vous êtes en contre-offensive. En fait, la différence, elle n'est pas là. Les Américains, depuis le début, les Occidentaux partent du principe qu'il faut empêcher l'Ukraine de perdre cette bataille. Ils sont donc sur la position défensive. Ce sont les Russes qui agressent et les Ukrainiens se défendent. Ce que ne veulent pas les Occidentaux, et on l'a vu pratiquement depuis le début de la guerre, c'est que les Occidentaux utilisent le matériel qui est fourni par les Américains, les Occidentaux, pour attaquer les forces de la Russie en Russie. Or, ce qu'on voit et ce qu'on commence à entendre dire, parce qu'ils ont bien compris les Ukrainiens, que quand on regardait la façon dont est organisé le front, qu'une grande partie du soutien des Russes se trouve de l'autre côté de la frontière. S'ils veulent gagner la guerre, si les Ukrainiens veulent atteindre leurs objectifs, ils vont être obligés de frapper les forces russes en Russie. Ils ont commencé à le faire petitement à Belgorod, ils ont fait des frappes sur des terrains, mais aujourd'hui ils s'organisent et ils vont avoir besoin de demander aux Occidentaux, si vous voulez vraiment qu'on gagne cette guerre, il faut nous autoriser à frapper les Russes en Russie. Et ça, effectivement, là on change totalement de dimension dans cette guerre, puisque l'OTAN deviendrait cette fois-ci en guerre contre la Russie, contre les forces russes en Russie.
Oui,
il ne s'agirait plus de défendre.
Engage directement. Après,
la sémantique, elle tourne autour de ce point-là. On n'en est pas là, mais on s'en rapproche. Puis, dernier point, parce que c'était bien expliqué tout à l'heure, je crois qu'effectivement, si on fournit autant de chars, c'est que le renseignement américain indique que les Russes se préparent à une contre-offensive, une offensive.
Voilà.
Donc c'est au moins autant pour contrer une offensive russe et empêcher à nouveau que les Russes prennent la direction d'Odessa et la direction de Kiev, que pour permettre aux Ukrainiens de conquérir le Donbass et la Crimée, parce que les généraux américains passent leur temps à dire que ça va être très, très difficile de déloger les Russes de là où ils sont. Donc vous voyez un petit peu la complexité de la situation.
En effet, et on se demande encore une fois à quel point l'OTAN et les alliés peuvent s'engager dans ce conflit. Alors, il va être bientôt l'heure de conclure et de marquer une pause, mais j'ai une question qui est volontairement simpliste. Est-ce qu'on est en train de prendre le risque d'une troisième guerre mondiale pour rendre le Donbass à l'Ukraine ?
Non. Le problème du Donbass, c'est il faut jamais oublier que le Donbass... D'abord, il y a deux parties dans le Donbass. Il y a une partie qui était ukrainienne, qui a été en partie reconquise par le... grignotée, conquise par la Russie depuis le 24 février. Et puis, il y a une partie qui est en guerre contre l'Ukraine depuis 2014. Cette partie qui contient les deux oblasts de Lugansk et de Donetsk, ces deux villes en particulier, ce sont des zones où il n'y a plus d'Ukrainiens. Quand vous êtes dans ces zones-là, il n'y a plus de symbole de l'Ukraine. Vous êtes dans un pays qui est totalement russifié. Vous êtes dans un pays qui est... Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette zone-là ? Imaginons, même si l'armée rouge... même si l'armée russe...
C'est l'obsession de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous verrez que c'est très, très présent. Parce que les Russes ont une mémoire longue, et dans ces pays-là, ils ont une mémoire très longue. Ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que vous avez quelques millions de personnes quand même dans ces endroits-là. Si les Ukrainiens viennent, c'est des gens qui vont partir en Russie. Il va falloir. Enfin, ce Donbass. Moi, je pense que, en effet, on l'a évoqué. C'est de le laisser et de dire, on partage le Donbass. On essaye de faire en sorte que Poutine garde cette partie-là. Voilà, parce que cette partie-là, depuis 2014, elle est en sécession. Oui. La vraie question que nous...
Avec des séparatistes soutenus et bien armés par Moscou.
Mais bien sûr, mais qui ont aussi été attaqués par l'Ukraine. C'est très compliqué. La vraie question qu'on doit se poser, nous occidentaux, est-ce qu'on est prêt à faire la Troisième Guerre mondiale pour le Donbass ?
C'était la question que je posais. Et c'est marrant parce que vous finissez votre réponse par la question que je vous ai posée.
Je trouve que le résultat... Ça s'appelle la maïeutique. Ça consiste à vous reposer la même question.
Gabriel, qu'en dites-vous ?
Mais la question qui n'a pas été posée ce soir, c'est est-ce que la France gardera une partition singulière ? Qu'en sera-t-il de ces Charles Leclerc ? Alors j'entends dire, c'est peut-être pratique aujourd'hui, que sur un plan militaire, il ne serait pas opérant. Enfin, moi, j'y connais absolument rien, mais c'est ce que j'ai compris. De la même façon que les chars allemands ou américains, et que ça éviterait de se poser la question. Mais je crois que les limites qu'avait fixées Emmanuel Macron, c'était que ça ne participe pas à une surenchère de la guerre, et puis que nous, découle
le conflit a légèrement évolué depuis un an, vous l'avez.
Dans notre équipement de défense, évidemment, il ne faut pas s'affaiblir. Et on voit que ce conflit, en fait, il est en train de redessiner une géopolitique, alors tant des Russes avec les Chinois, les Africains, mais aussi au sein de l'Europe. Parce qu'on l'a vu, la Pologne, elle, félicite l'Allemagne. La France n'est pas très à l'aise. Donc c'est quand même l'Union européenne qui se voit un peu fragmentée et fragilisée.
De ce point de vue-là, non. On peut dire que l'Union européenne est divisée dans bien des cas, mais concernant l'Ukraine, on a quand même réussi à parler d'une voix assez unifiée, me semble-t-il, depuis le début de cette guerre, et c'est à souligner.
Tout le monde n'a pas la même partition, je suis désolée.
Évidemment, il y a des différences, mais c'est une différence...
La Pologne et la France n'ont pas la même partition.
C'est un changement de degré, ça n'est pas une différence de nature, et ça, je crois qu'il faut le souligner vraiment. De ce point de vue-là, il me semble que vous avez tort, sincèrement. L'Union européenne, concernant la position à adopter face à l'Ukraine, est plutôt une position commune.
Au début, peut-être qu'il y avait une voix unie, mais à partir du moment plus on va rentrer dans une possible co-belligérance, plus des décisions graves vont être prises, chacun va avoir sa position singulière.
Ça dépend aussi jusqu'où l'Ukraine veut aller. Il y a ça aussi, toutes les questions de jusqu'où elle veut aller.
A priori, jusque boutiste.
Oui, mais c'est ça aussi.
C'est la Russie qui est jusque boutiste, pardon.
Quel est le but de la guerre maintenant pour l'Ukraine ?
Non, pardon.
Il y a un agresseur et un agressé. La Russie, comme je disais tout à l'heure, et comme l'a confirmé le général, prépare une contre-offensive. Encore une fois, il y avait un moment idéal pour négocier, où Poutine était paradoxalement en position de force. Il n'a pas fait ce choix, il prépare une contre-offensive.
Il est quasiment 22h30. C'est vrai qu'on a un petit peu poussé au-delà de ce qui était prévu ce thème, mais c'est normal. Évidemment passionnant et c'est normal, comme vous le rappelez, Philippe. Quand ce sera nécessaire. 22h30 quasiment. Le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri. Et on passe au reste de l'actualité. Ça continue de vous faire parler.
Mais non, mais.
Et bien, vous ferez ça pendant la publicité. Adrien.
Le trafic reprendra presque normalement demain à la gare de l'Est. Information confirmée par la SNCF après 2 jours de réparation. 3 TGV sur 4 sont prévus. Mardi, des câbles électriques ont été endommagés par un acte de sabotage. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête. Au moins 2 morts et 7 blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Le motif de l'agression n'est pas encore connu. Toutes les pistes sont étudiées par la police. Et puis la ville de Soledar, cédée à la Russie. Information de l'armée ukrainienne ce mercredi. Les forces armées ukrainiennes l'ont quittée pour se replier sur des positions préparées. Moscou revendiquait la prise de la ville de l'Est du pays depuis déjà 2 semaines.
Et je vais remercier le général Clermont qui était avec nous. J'ai omis de remercier. J'espère qu'il est encore avec nous et qu'il m'entend. Je m'en excuse. Donc, merci d'avoir été avec nous, cher général. On marque une pause et on parle des syndicats unis qui appellent à multiplier les mobilisations contre la réforme des retraites. Va-t-on vers un blocage du pays? Peut-on encore l'éviter? Rien n'est moins sûr. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, les syndicats unis appellent à multiplier les mobilisations sur le terrain ou dans les entreprises contre le projet de retraite d'ici le 31 janvier. Certaines actions commencent même demain dans les raffineries. Les lycéens appellent également à descendre dans la rue. Peut-on encore éviter le blocage du pays ou est-ce trop tard? On va se poser cette question pendant quelques minutes. Écoutez d'abord donc l'intersyndicale qui se réunissait devant l'Assemblée nationale aujourd'hui après une réunion. Écoutez deux leaders, celui de la CGT, celui de la CFDT, j'ai nommé messieurs Martinez et Berger.
Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger. Et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
On n'est pas encore en vacances, ok? Il n'y a pas des vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fasse dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ce qu'on fait.
Le Front syndical uni, Johan Usaï, signe que la bataille est loin d'être terminée. Les syndicats ne sont pas morts dans ce pays. Pourtant, certains avaient annoncé leur mort il y a encore quelques mois.
Oui, on voit manifestement qu'ils sont encore capables, en tout cas, d'organiser de grandes mobilisations. Ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. On voit qu'ils ont engagé un bras de fer aussi. On savait qu'il serait à la fois long et difficile. Et manifestement, on ne s'était pas trompé. Ce sera le cas, vous disiez. Est-ce qu'on peut encore éviter les blocages? Manifestement, ça semble difficile. On voit bien que les mois de février et les mois de mars seront 2 mois très compliqués pour la vie quotidienne des Français, parce que vous êtes dans une situation où les syndicats, à l'évidence, sont extrêmement déterminés parce qu'ils savent qu'ils ont le soutien et un soutien massif de l'opinion. Tous les sondages le montrent. Ce qui est d'ailleurs problématique, c'est que l'opposition à cette réforme grandit au fur et à mesure que le gouvernement explique qu'il veut faire de la pédagogie.
Donc ça, c'est quand même
ça, c'est un problème de taille. Plus le gouvernement,
que ce soit chez LR et au sein même de Renaissance.
C'est un problème politique. Vous avez raison de dire que les députés, une partie des députés doutent, c'est certain, mais plus le gouvernement explique qu'il veut faire de la pédagogie pour expliquer cette réforme aux Français, plus les Français sont hostiles à cette réforme. Donc les syndicats se sentent galvanisés par cela et ils ont raison de l'être. Et puis de l'autre côté, vous avez le gouvernement et Emmanuel Macron qui, lui non plus, sait qu'il ne peut pas reculer. Il ne peut pas reculer d'abord parce qu'il est convaincu que cette réforme est souhaitable et nécessaire. Et s'il recule, c'est la fin de son quinquennat 8 mois seulement après son élection.
Si je résume, les syndicats ne peuvent pas reculer. L'exécutif ne peut pas reculer, le président ne peut pas reculer.
Donc c'est un bras de fer.
Donc c'est une impasse.
Non,
surtout,
non, parce qu'une fois que cette réforme aura été adoptée ou non par le Parlement, mais si elle est adoptée, on sera à la fin du mois de mars, les syndicats ne pourront pas éternellement faire grève. Parce que d'abord, faire grève, ça coûte de l'argent. Donc, effectivement, le gouvernement se dit qu'on va vers 2 mois très difficiles, mais que s'il arrive à faire adopter cette réforme au Parlement, eh bien c'est la démocratie qui aura parlé.
Je voudrais juste qu'on entende Éric Woerth, qui a été ministre du Travail, qui a mené une réforme très compliquée en 2010. Aujourd'hui, du côté de Renaissance, il dit que la pression est plus forte encore aujourd'hui qu'il y a donc 13 ans environ. Écoutez-le.
Écoutez, la situation, elle n'est pas tout à fait la même, parce qu'il s'est passé 12 ans. Il y a eu beaucoup de crises récentes très importantes, que probablement la tension sociale est plus forte qu'elle ne l'était en 2010, même si elle l'était déjà aussi. Il y avait beaucoup de sujets. Il y avait eu la crise de 2007, et puis il y avait eu aussi beaucoup de critiques contre la réforme. Mais c'est les mêmes postures, c'est les mêmes rapports de force, au fond, entre un gouvernement qui veut sauvegarder, protéger, au fond, le modèle par répartition, et puis des syndicats unis qui disent non, c'est pas nécessaire, ou non, il y a d'autres solutions, enfin, qui rejettent la solution retenue.
Et puis ce sondage, approuvez-vous le blocage par les syndicats? On voit que les Français sont derrière les syndicats, ça approuve le blocage, les blocages à 58% contre 41%.
C'est l'inverse.
Approuvez-vous les syndicats qui... Ah oui, non, pardon, autant pour lui. Non, parce que je voulais voir le détail surtout, le détail, c'est ça qui est intéressant. Total de gauche qui approuve à plus de 70%, un peu plus au centre, 21% qui approuve et 33%. À droite, qu'est-ce qui pourrait faire reculer le gouvernement désormais? C'est la question qu'on se pose, Karima Brik.
En fait, ça va être effectivement dans la durée qu'on va voir ce fameux bras de fer qui va céder en premier. Pour l'instant, je pense que le gouvernement n'a pas à céder en ce moment. Il y a eu une journée de mobilisation. Il y a beaucoup de bruit en ce moment, mais concrètement, il y a eu une vraie journée de mobilisation. Presque quoi? Presque 2 millions, entre 1,5 million à peu près de personnes.
C'est quasiment 70% de Français qui refusent cette réforme.
Mais on disait, est-ce qu'il va céder en ce moment? Non, en ce moment, il ne va pas céder. Il y a eu une journée, il va y avoir d'autres manifestations. Je pense effectivement ça va être l'hiver le plus chaud depuis une décennie, on peut le dire comme ça. Par contre, ce qui est l'élément un peu nouveau, c'est effectivement probablement qu'Emmanuel Macron et son parti pensaient que ça allait passer, comme on dit, comme du beurre dans la poêle au Parlement. Mais finalement...
Comme une lettre à la poste, on dit nous, mais
ouais, c'est pas mal.
Comme du beurre dans la poêle, c'est bien. L'image est à peu près la même.
Oui, bien ça, c'était quand même... C'est la variable, cette grande inconnue qui est survenue comme ça. Donc, même au sein de son parti, une contestation. En fait, ce n'est pas certain non plus du côté des LR. Donc, moi, je pense que ça va vraiment se jouer là-dessus. Et par rapport au blocage en tant que tel, je pense que les Français, effectivement, sont ralliés autour du fait qu'ils sont contre cette réforme. Mais il faut faire attention quand même avec les syndicats. Ils s'approprient la chose en disant que c'est nous. Attendez, là. Je veux dire, la réforme touche tous les Français. Donc,
c'est
faut
eux.
Faire...
C'est... Oui, c'est eux.
Exactement.
Les gilets jaunes, au maximum, c'était 300 000 personnes dans les rues.
Ils n'ont pas attendu les syndicats pour être contre cette réforme.
Ils ont réussi à rassembler plus d'un million de personnes.
Non, moi, je pense qu'il y a quand même un mouvement, j'allais dire pas spontané, mais je pense que les Français ne sont pas d'accord avec cette réforme et ils n'ont pas attendu nécessairement juste les syndicats pour être contre cette réforme.
En tout cas, le mouvement est parti pour durer et pour perturber, surtout, voire gâcher les vacances de février. D'ores et déjà, des actions sont prévues. Je voudrais qu'on regarde ce sujet, faire le point sur ce qui nous attend et poursuivre la discussion.
C'est sur un appel à la mobilisation le 31 janvier que s'est conclue la réunion intersyndicale de la RATP. D'après Bertrand Hamache, secrétaire général de la CGT-RATP, la suite des événements devrait être discutée prochainement.
À l'heure actuelle, dans l'intersyndicale à la RATP, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour aller au-delà du 31. On a encore jusqu'au 31 pour préparer sur cette question-là. Bien sûr qu'on est aussi, on attend aussi de voir la mobilisation qu'il va y avoir le 31, que nous, on estime puissant.
La grève du 31 sera également suivie par la SNCF, qui prévoit d'intensifier ses actions. C'est ce que souhaite Fabien Villedieu, représentant du syndicat de Sudrail.
Nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grève le 31 avec tout le monde. Faire uniquement des journées de 24 heures, on a la faiblesse de croire que ça ne suffira pas. Si ça ne suffit pas, il faut un peu cranter en termes de mobilisation.
La SNCF a d'ores et déjà appelé à 2 jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février prochains. Alors même que la première zone sera déjà en période de vacances scolaires, les Français redoutent de pâtir de cette situation.
Je ne sais pas, c'est vraiment c'est la meilleure façon.
Nous, on est en études à Paris, donc on est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous.
Pour les syndicats, c'est la seule façon, en fait, de pouvoir faire un levier, mais c'est toujours sur les mêmes que ça tombe.
Le bras de fer entre organisations syndicales et gouvernement étant engagé, il s'agit pour elles de relever un défi, continuer la mobilisation tout en conservant le soutien des Français.
Philippe Guibert, tous les moyens sont permis, les vacances vont y passer, la réforme des retraites mérite que tout y passe.
Mais il faut bien comprendre qu'il y a un élément essentiel dans tout ça, qui est la durée du débat parlementaire. Parce que si le gouvernement actionne l'article 47 alinéa 1, comme on a
dit, réduit donc le temps de débat.
Le temps du débat est très réduit.
À 50 jours.
50 jours. Donc ça veut dire que l'essentiel se passe au mois de février avec un atterrissage.
Non, puisque le début de l'examen va commencer autour du 7 février, donc ça sera vraiment février-mars, oui.
Ouais, ce sera sur les deux mois.
Beaucoup de jours en février et ça atterrit en mars.
Il vous reste 22 jours en février et puis.
Donc, si vous voulez, si les syndicats veulent faire quelque chose, il ne faut pas qu'ils attendent de la fin février. Donc, il y a un élément de calendrier dans cette affaire qui joue beaucoup. Et puis d'autre part, les syndicats ont pour l'instant gagné la bataille de l'opinion, c'est ce que disait Johan, puisque quand même l'opposition à cette réforme a gagné pas loin d'une dizaine de points, entre 5 et 10 points, selon les baromètres, en l'espace d'une quinzaine de jours depuis que le gouvernement a présenté son projet. Donc il y a un dernier élément qui est tout à fait essentiel, qui est de savoir si tous les députés macronistes et la plupart des députés républicains vont continuer de voter cette réforme comme on pouvait le penser il y a encore 15 jours, 3 semaines, ça paraissait une certitude. Mais plus la pression de l'opinion monte, plus la pression syndicale monte, plus il y a des électeurs macronistes ou de droite qui sont opposés à cette réforme, plus la tentation des députés de la majorité ou de droite va être d'être beaucoup plus prudent ou beaucoup plus réservé sur le vote de cette réforme.
Justement sur cette pression syndicale qui est, j'ai l'impression, Gabriel Cluzel, un peu à double tranchant, notamment ces derniers jours avec cette forme de radicalité qui est en train de poindre dans ce mouvement de contestation. On a parlé notamment des menaces de coupure de courant de la CGT Mines et Énergie à Marseille qui est particulièrement active, avec la gauche de la gauche qui appelle, qui relaie ses appels à la désobéissance civile. Ça veut dire quoi? Qu'on s'affranchit des règles de manière assumée, on s'affranchit du cadre légal et certains politiques mettent ça en avant. C'est une des démarches constructives pour empêcher cette réforme.
La possibilité, parce que ça, c'est souvent le cas dans ce genre de contexte, c'est qu'au fil de la mesure que le temps s'écoule, les militants, les vrais militants syndicaux se radicalisent, la base se contracte, mais il y a de plus en plus d'actions extrêmement fortes. Et c'est peut-être un point sur lequel compte le gouvernement, parce qu'en général, ça ne rend pas les manifestants.
Ils peuvent perdre l'opinion avec ce genre d'action.
Alors, vous savez, les Français, beaucoup de Français sont pris entre le marteau et l'enclume, parce que s'ils ne soutiennent pas les syndicats ou les blocages des syndicats, eh bien, ils sont présumés soutenir le gouvernement et la réforme des retraites. Et en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Il y en a beaucoup qui, simplement, ont envie d'aller travailler tranquillement, qui ont souffert ces derniers mois pour les raisons que l'on sait, qui souffrent encore de l'inflation, enfin de toutes sortes de maux, et qui donc ne souhaitent pas ce blocage et qui néanmoins n'adhèrent pas à la réforme des retraites. Il faut quand même souligner que cette réforme des retraites, elle souffre d'une communication déplorable. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est le point des femmes. Franck Riester qui dit ouais. Ah oui, c'est vrai que les femmes vont un peu, la retraite des femmes va un peu être pénalisée. Non, mais je vous rappelle que pourquoi la retraite des femmes.
Elisabeth Borne a sorti les rames toute la journée qui a suivi pour essayer de rattraper le coup.
Voilà, et c'est pas la retraite des femmes, c'est la retraite des mères en réalité, quand vous regardez, parce que c'est les carrières hachées. Alors c'est quand même un peu difficile quand on a une réforme des retraites à faire qui s'appuie sur la démographie, d'expliquer que celles qui ont fourni, entre guillemets, des cotisants, on se place d'un point de vue purement économique. Quand même rendu un service global à la société. C'est pas pour ça qu'elles ont eu des enfants, évidemment, mais néanmoins, ça doit être reconnu. Elles ont une carrière hachée, leurs enfants vont cotiser, et on est en train de dire, finalement, elles vont quand même être un peu pénalisées. On voit que cette réforme n'a pas été penser. Et puis, de fait, la société est quand même très crispée, elle va mal. Et quand on est chirurgien, quand on veut opérer quelqu'un, on attend qu'il soit en bonne santé. Et là, c'était de toute évidence pas le moment.
Juste sur les,
là, ça ne va pas, en tout
sur
cas.
Ces actes de désobéissance civile et notamment ces coupures voulues par certains syndicalistes CGT, il va loin, Éric Woerth, qu'on va entendre une dernière fois chez Laurence Ferrari ce matin. Lui va jusqu'à parler de terrorisme social. Écoutez-le. Ouais,
moi, c'est la désobéissance civile.
Que vous condamnez?
Bien sûr, je le condamne totalement. On peut défiler, on peut faire grève, tout ça, ce sont des droits fondamentaux, mais on ne peut pas commencer à jouer une forme de terrorisme social.
Le mot est choisi, hein, est très fort. Alors, Régis, qu'on n'a pas entendu encore, et Philippe, je sais que ça vous fait fortement réagir. Terrorisme social.
Je crois que le terme terroriste avait été utilisé par un autre ministre il y a quelques temps pour aussi.
J'ai un trou de mémoire, mais vous avez raison.
C'était peut-être sur les écologistes, les militants.
Oui, exactement. Exactement.
Les fameuses bassines d'eau.
Exactement, terroriste écologique.
Voilà, donc à l'époque, dès qu'on a un problème et qu'on n'arrive pas à le résoudre, ce sont des terroristes, c'est vrai que ça.
Forme de point Goodwin, un peu.
Exactement. Ou point Goodwin, ou point de non-retour, c'est-à-dire de leur point de vue, parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce mouvement, moi je m'en réfère aux grèves, souvenez-vous, au moment à Noël et au premier de l'an, à l'époque, on avait vu des syndicats déjà qui étaient dépassés par des collectifs anonymes de gens qui maintenaient. Alors les syndicats disaient non, on n'y peut rien, on est dépassé, mais on n'est même pas dépassé par les éléments dont vous parlez. C'est-à-dire là, vous parlez de coupures de gens qui sont prononcés, qui font partie des syndicats, mais il y a aussi toute une frange qui ne fait pas partie et qui, elle, est capable d'aller jusqu'au bout. Et donc, on peut arriver, en effet, par une accumulation, parce qu'on a vu que la mobilisation était très forte. En fait, le problème, c'est toujours, me semble-t-il, un problème du dialogue social que ce gouvernement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, n'arrive pas à imprimer avec l'opinion. Il y a une impossibilité de dialogue, parce que on attend toujours que les choses soient, trop avancées pour arriver, rétro-pédaler, etc. Mais il n'y a jamais en amont de réflexion et de véritable prise en compte finalement de l'opinion des autres.
Encore un ou deux mots sur cette radicalité, sur ces menaces de coupure et d'action radicale. Donc, et je voudrais qu'on entende aussi dans un instant le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, dont on parle beaucoup, qu'on entend assez peu. Tout va bien, en fait. Il faut vraiment qu'on s'intéresse au fond de trois minutes. Mais un dernier mot sur le terrorisme social. Ouais.
Non, je réagissais à cette expression d'Éric Woerth. Enfin, je veux dire, continuer comme ça, quoi, là, cette communication. Enfin, de commencer à parler de terrorisme, même une forme de terrorisme social.
Ça va mobiliser encore plus.
Enfin, continuer à agiter des chiffons, ça va aller mieux.
Et c'est mieux.
Des chiffons rouges devant les gens, alors qu'ils perdent la bataille de l'opinion. Enfin, c'est quand même impressionnant, quand même qu'ils se posent des questions. C'est honteux de dire terrorisme.
Là, je crois qu'il parlait des coupures de courant de la CGT, en l'occurrence.
Oui, c'est de ça. C'est comme ça que je l'ai lancé.
Hein. Oui. Il faisait pas directement.
Il fait référence au blocage et aux actes de désobéissance civile. Il fait pas référence aux manifestations, Philippe Guibert.
Même s'il parle de coupure d'électricité, on peut pas parler de terrorisme.
Non, absolument.
Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Ah oui, mais c'est pour ça que je m'arrête sur cet
extrait. On sait ce que c'est que le terrorisme dans ce pays. On a été bien frappé par le terrorisme. Oui.
Rebondir sur ce que disait Régis, qui parlait du dialogue impossible. Il y a eu ce que le gouvernement appelle des concertations. Le dialogue, il a duré plusieurs mois, en l'occurrence, sur cette réforme. Mais de façade, peut-être, mais en l'occurrence, quand vous avez deux positions qui sont irréconciliables, comment voulez-vous trouver une porte de sortie? C'est-à-dire que les syndicats vous disent c'est 62 ans ou rien.
C'est pour ça que j'ai parlé d'impasse tout à l'heure.
C'est pas ce que
vous m'avez dit. Vous m'avez dit non, je vous ai dit c'est une impasse, vous m'avez dit non, c'est un bras de fer. Mais non, c'est une impasse.
Mais non,
parce qu'il y avait déjà la réforme de Marisol.
Il y a aucune marge de négociation.
Mais ça n'est pas une impasse. Pardon, ça n'est pas une impasse dans le sens où il y aura une issue à ce conflit. Il y aura un camp qui va gagner. Donc, ça n'est pas une impasse, mais c'est bien un bras de fer, effectivement. Oui, mais les deux positions sont irréconciliables. Les syndicats et la CGT, puisque la CFDT est plus flexible, effectivement. La CGT dit c'est 62 ans ou rien, voire certains commencent à dire le retour à 60 ans. On peut se dire
les négociations sont compliquées. Est-ce que les Français peuvent accepter un jour ou l'autre une réforme des retraites?
J'en suis pas sûr non plus. Non,
parce que l'Allemagne l'avait fait sous Gerhard Schröder.
Gabriel.
C'était sous un gouvernement socialiste, ce réalignement des retraites et l'Allemagne.
Alors le problème, et Gabriel, vous allez reprendre, mais je voudrais qu'on avance, parce qu'on entre justement dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que la question que se posent les Français, qui sont, je le rappelle, quasiment 70% contre cette réforme, est-ce que cette réforme arrive au bon moment? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est juste? Et est-ce que surtout le jeu en vaut la chandelle? Il y a quelqu'un dont on parle énormément, je le disais il y a un instant, c'est le président du Conseil d'orientation des retraites, qui s'appelle Pierre-Louis Bras, qui a priori connaît un petit peu le dossier, qui était auditionné à l'Assemblée nationale, c'était il y a 5 jours. Tout va bien, nous dit-il, tout va bien, il n'y a pas urgence à réformer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le président du Conseil d'orientation des retraites. Écoutez.
Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord ? En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. Une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord ? Donc, ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas.
Il n'y a aucune urgence à réformer.
Non, parce que attention quand même.
Non mais Philippe, je vous vois venir. Hein. Mais ah non, d'ailleurs c'était Gabriel, pardon.
Non mais
Gabriel,
juste une phrase. Non, juste une phrase.
Ah oui, mais
il
non.
Il parle pas des recettes. En fait, les recettes vont diminuer. Pardon, Gabriel. Les recettes vont diminuer aussi beaucoup.
Ah mais ça, il ne le dit pas.
Oui, mais donc ça nous ramène à la question précédente. Pourquoi, puisqu'il n'y a pas d'urgence.
C'est pas ce que dit le rapport par ailleurs. Enfin, pardon. Bah, Monsieur Brun n'a pas lu son rapport. Enfin, je m'excuse.
Non mais le rapport d'accord. Il ne traite qu'une partie de son rapport.
Attends, le discours commun en matière de communication, c'est de dire à moyen terme, il faut faire quelque chose. Il
y a pas, c'est ce que dit le rapport.
C'est, voilà, très bien. À moyen terme. Donc ça veut dire qu'on n'était pas obligé de le faire maintenant déjà. Non. Donc ça veut dire qu'on n'était pas obligé de précipiter la réforme Touraine parce que finalement cette réforme, elle revient à ça. Donc je ne comprends pas pourquoi on a choisi ce moment absolument déplorable, qui suit toutes les crises que l'on sait pour refaire une fixette sur la réforme des retraites. Parce que, évidemment, c'est absolument incompréhensible pour les Français. Là, et encore une fois, il y a un angle mort qui est celui de la démographie. Si la réforme ne doit être faite qu'à moyen terme qu'à long terme, ça veut dire qu'on a encore une génération devant nous où on peut mettre en place des réformes permettant d'accélérer la natalité. C'est absolument pas pris en compte. Moi, j'ai rien vu dans ce que propose le gouvernement qui le mette en place. Donc ça aussi, c'est absolument incompréhensible. Je voulais juste revenir sur un petit point qui m'a fait réagir sur les syndicats. Je trouve qu'ils s'honoreraient à renvoyer les lycéens chez eux. Pardon, mais les manifestations, c'est un droit démocratique. Quand on n'a pas 18 ans, on ne va pas manifester. Le meilleur moyen d'améliorer leur retraite... Mais oui, mais bien
sûr. Vous n'avez jamais été au lycée manifester?
Non, jamais.
Bah, je vais plaider coupable.
Et bah, c'est pas bien.
Quand j'ai mis ta veste, j'étais au lycée. Mais je vais vous dire, je vous parle.
Vous aviez manifesté pourquoi?
Non, mais j'étais au lycée près de la place de la Nation.
Alors, quand il y a une manif, c'est vrai que... Est-ce que vous manifestiez réellement?
Non, ça permettait de sécher les
bien sûr que non. Bien sûr que non. La réponse est dans la question, et vous savez. Donc, mais ça fait partie aussi du folklore.
Non, à leur âge, et s'ils veulent préparer leur retraite, ils vont bosser.
Les 68, ça vous dit quelque chose?
Non, mais ce que veut dire Gabriel, c'est qu'il y a une forme d'instrumentalisation.
Mais bien sûr, mais on n'a pas attendu Gabriel pour savoir que des lycéens, idéologiquement, sont peut-être un petit peu manipulables.
Oui, bon, là, il y a une instrumentalisation des lycéens qui est une évidence.
Voilà, exactement. On a le droit de le dire ou on n'a pas le droit de le dire?
Vous avez le droit de tout dire.
Ce ne sont pas des victimes non plus.
Dans le respect de la loi.
Je crois qu'ils ont envie de sécher.
Ils ont envie d'y aller aussi. Il faut quand même leur donner ça, pardon.
Tenez pas un discours aussi négatif sur les lycéens, je suis désolé. On a le droit d'avoir une conscience politique. Excusez-moi.
Non, arrêtez.
C'est une démagogie.
Enfin, bien sûr. Non, mais attends. Non, je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit.
Enfin, il y a des. Pardonnez-moi, moi j'étais à 15-16 ans, j'avais une conscience politique.
Qui est la même que celle d'aujourd'hui?
Ah, bah évidemment que non.
Et voilà.
Et pourquoi voulez-vous? C'est peut-être la personne d'aujourd'hui qui a tort et le lycéen qui a raison.
Ça m'ennuie de vous entendre dire ça parce que vous êtes professeur. Et justement, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma scolarité, c'est les professeurs qui, dans toutes ces manifestations auxquelles vous avez peut-être participé, moi, auxquelles je n'ai pas participé,
le fait que je sois professeur,
Je trouve qu'on n'a pas un. Les professeurs, ils sont là pour enseigner, les élèves sont là pour étudier.
C'est ce que je fais toutes les semaines, chère madame. J'enseigne pas à des lycéens.
Je pense qu'il ne faut pas leur dire d'aller manifester.
Merci pour la leçon faite aux professeurs, mais j'enseigne à des étudiants. Et les professeurs ont encore liberté de parole.
Adrien Spiteri, un petit rappel de l'actualité.
Qu'est-ce que c'est que cette moraline sur les lycées?
Une étudiante agressée au couteau dans un campus universitaire. Il se trouve à Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de la capitale. Selon le parquet de Paris pour CNews, la victime est grièvement blessée. Son pronostic vital n'est plus engagé. Il s'agit d'une femme de 32 ans, née en Algérie. L'agresseur présumé va être hospitalisé en vue d'une opération. Le chômage a reculé en France en 2022 avec 114 000 inscrits à Pôle emploi en moins au quatrième trimestre. Selon les chiffres du ministère du Travail, le chômage a baissé de 3,6%. Il retrouve son plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011. Et puis les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. C'est le président américain Joe Biden qui l'a annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale, a-t-il déclaré. Kiev réclame depuis plusieurs semaines des chars aux Occidentaux pour repousser l'invasion russe dans le pays.
Merci beaucoup Adrien Spiteri. Vous êtes chafouin, hein, Philippe Guibert.
Non, parce
on
que
vous est pris à partie sur les
on
lycéens.
On élargit le
ça.
Débat pour ne pas rester là-dessus. Mmh. Le problème des lycéens, des étudiants aujourd'hui par rapport à ma génération ou à la vôtre, c'est qu'ils sont beaucoup moins politisés. Ça s'est vu quand même à l'élection présidentielle, où je vous signale que les moins de 30 ans ont été 40% à s'abstenir. C'est la première fois.
Ah, mais je pense que c'est ce que vous voulez dire, Gabriel, et ce qu'on peut entendre, laisser... c'est quand vous avez 16-17 ans, vous n'avez même pas commencé à travailler dans votre vie, que vous allez manifester contre une réforme de retraite,
okay,
ça paraît un petit peu
D'accord, ok, mais la conscience politique, elle n'est pas liée qu'à vos intérêts, votre intérêt immédiat. Je lutte contre cette idée. Donc, laissons les lycéens et étudiants se politiser, même si ce n'est pas toujours
à la crête de la CGT. Mais
bon. Non, mais c'est terrible quand même ce que vous dites sur les 40% de
attends, parce que j'ai deux discussions dans un même plateau là.
Pardon. Mais qu'est-ce que vous avez dit à l'initiative laissons-les se politiser à l'initiative de la CGT.
Qu'est-ce que vous racontez? Excusez-moi, mais ce n'est pas à l'initiative de la CGT.
Pardon, c'est la CGT qui leur adresse des messages en permanence. La CGT les appelle à bloquer les lycées, à descendre dans la rue. Oui, à l'initiative de la CGT.
Là, vous mélangez les étudiants et les lycéens. Moi, je
parle.
C'est pas pareil.
Oui, Gabriel parlait des mineurs.
Oui, voilà.
On parle des lycéens.
Bon, avançons. Moi, la dernière chose que je voulais dire, parce qu'on a pas mal dévié par rapport au son qu'on a entendu du président Ducor, mais qu'il ait raison ou qu'il ait tort, sa voix, elle est entendue. C'est le président du Conseil d'orientation des retraites. Et je trouve que pour le gouvernement, le discours de Pierre-Louis Bras, il est terrible parce qu'il infuse, on le reprend, on l'entend et on se dit... On va sur un hiver social quasiment sans précédent pour une réformette qui n'a pas lieu d'être. Voilà, moi, ce que je retiens et ce que je me dis que nos téléspectateurs retiennent d'un discours comme celui-là. J'ai tort ?
Mais en fait, réformette...
Un peu ?
Certainement pas. Moi, je ne pense pas que ce soit une réformette. C'est comme
une réforme systémique.
À un moment, va être obligé d'être étudié. Mais vous souvenez-vous, ça avait été annoncé. Normalement, ça devait se passer avant Noël. Finalement, ça a été décalé à la rentrée.
C'est vrai.
Et il y a eu une sorte de tunnel de choses qui sont arrivées avec l'assurance chômage, tout est combiné aujourd'hui pour qu'on ait le pire socialement en fait. Et c'est une question d'agenda, mais ça aurait pu être décidé et pu, à mon avis, être anticipé davantage par le gouvernement. Ça ne l'a pas été parce que le gouvernement est toujours dans cette logique d'imposer plus que de proposer. En fait, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue et on arrive à la crispation. Et à ce moment-là, c'est le clash.
Et ce qui est intéressant, on va revenir hein, tout au long de la semaine sur cette journée du 31 qui nous attend. Ce qui m'intéresse également, c'est de faire un petit pas de côté et de profiter de ce sondage qu'on découvre ces derniers jours pour mettre aussi en perspective cette réforme et le rapport des Français au travail. Mmh. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, le rapport au travail des Français a changé. L'évolution au cours des trois dernières décennies est assez évocatrice. Regardez, puisque seulement un salarié sur cinq désormais estime aujourd'hui que le travail est très important, contre 60% en 1990, il y a une trentaine d'années. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a à peine 15 ans, près de 2 Français sur 3 acceptaient d'avoir moins de temps libre en échange de revenus plus élevés. En 2022, le rapport est complètement inversé. Vous voyez, ils sont désormais deux fois plus nombreux à préférer davantage de temps libre, même si cela implique de gagner moins d'argent. Je trouve que cette inversion, en quelques années seulement, elle est complètement folle, Karim Abri. Comment est-ce qu'on l'explique? Et Johan,
oui,
ensuite.
Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même un gros changement. Hein, 25% donc, en 2020.
En si peu de temps, surtout.
En si peu de temps, oui, effectivement. Ben, il y a cet aspect de la société où les gens sont de plus en plus aussi individualistes. Donc, de s'accrocher à un travail, le collectif, c'est quelque chose qui déplaît peut-être un peu de plus en plus, je dirais. Il y a aussi peut-être une prise de conscience, je pense particulièrement avec la période COVID. Il y a certaines personnes, finalement, qui ont développé une sorte d'allergie, j'allais dire même à l'effort. Certains ont réalisé un rapport au temps qui était différent et se sont rendus compte que, finalement, passer 3 heures dans les transports, c'était peut-être un peu désagréable, finalement, qu'ils préféraient avoir du temps pour eux-mêmes, avoir un peu de temps, donc, de voir, je sais pas, d'entendre les oiseaux ou autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un changement d'époque aussi. Et il faut se mettre dans un contexte. Dans les années 80, par exemple, la génération X, on disait la génération No Future, il n'y avait pas d'emploi, donc les conditions étaient extrêmement difficiles. Le rapport au travail était différent. Et aujourd'hui, bien, on est dans un contexte
encore plus différent. Il y a quand même certains des postes à pourvoir, c'est ce qu'on dit. Les jeunes ont l'impression qu'ils ont le choix. Donc, on est dans cette société plus hédoniste. On privilégie son bien-être, son bonheur. On veut une meilleure conciliation travail.
Je sais pas,
ben, les deux, ouais. En fait. Ou en fait, c'est peut-être un fantasme, mais il y a cet appétit pour cet hédonisme et on n'aime pas la verticalité, on n'aime pas l'autorité, on n'aime pas d'avoir justement des patrons ou quoi que ce soit. Je pense pour la plus jeune génération, on l'observe beaucoup, c'est un changement drastique. Et peut-être en terminant, pour ce qui est de l'argent aussi, je remarque notamment chez les jeunes générations, certains vont privilégier davantage les expériences plutôt que le matériel. De toute façon, si on regarde le prix de l'immobilier tellement rendu astronomique, certains vont dire, ben, de toute façon, j'aurais jamais les moyens pour ça. Autant profiter de la vie et faire des voyages, des dîners avec des amis et c'est tout.
Johan, le lien avec la crise Covid, il doit être fait
Non.
Alors, ce que je vois, c'est que cette réforme, la réforme des retraites, va à l'encontre des aspirations des Français. Hein.
À l'évidence.
À l'évidence,
mais,
oui.
Mais non, je ne crois pas que ce soit particulièrement inquiétant. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le travail n'est pas le centre de la vie. Après tout, la vie, il faut en profiter et c'est bien d'avoir du temps pour ses loisirs, etc. Est-ce que les Français veulent moins travailler? Peut-être pas. Je pense qu'ils veulent mieux travailler.
Alors on disait le travail, c'est la santé.
Oui, ce qui est faux. Ça a été démontré par un bon nombre d'études.
Mais ça dépend quel travail.
La santé, oui, c'est la santé mentale.
Oui,
pour,
oui mais
aller surtout du travail.
Vivre, exactement. Être au chômage, c'est...
Exactement. Mais,
mentalement, c'est compliqué.
Mais,
hein.
Néanmoins, je crois que les Français veulent mieux travailler, avec le télétravail notamment, ce qui évite les temps de parcours dans les transports en commun, etc. Donc, mieux travailler, d'accord. Ce qui est inquiétant, me semble-t-il, c'est le discours de certains responsables politiques.
Le travail est une valeur de droite?
Non, qui vous disent, oui, qui disent le travail est une valeur de droite, qui disent on va passer aux 32 heures et puis pourquoi pas aux 28 bientôt, on va travailler 4 jours par semaine et puis on va prendre la retraite à 55 ans. Il y a une partie, certes, infime de la classe politique. Il y a un discours de cette nature-là et c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que n'oublions pas quand même que le travail, c'est ce qui crée de la richesse dans tous les pays et notamment en France. C'est-à-dire que si on travaille moins, on va créer moins de richesse.
Et des retraites.
Si on crée moins de richesse, qu'est-ce que ça implique? Ça implique peut-être une décroissance. Alors je sais qu'il y a un discours écolo un peu tendance en ce moment qui prône la décroissance. Il faut bien avoir conscience de ce qu'implique la décroissance. Donc, naturellement, si on veut travailler moins, on sera moins riche. Il faut avoir conscience de tout cela. Voilà, c'est ce que je dis. Et une partie de ce discours politique, moi, m'inquiète un peu.
Pourquoi la valeur travail s'évertelle aux yeux des Français? Gabriel, c'est générationnel. Il y a un changement civilisationnel dans nos sociétés autour du travail.
Il y a quand même cette idée sous-tendue qu'il y aura toujours un filet social, quand même. Parce que la décroissance, c'est une idée de bourgeois qui n'a pas eu faim.
C'est pour ça que je dis qu'il faut bien avoir conscience de ce que ça implique, la décroissance.
Exactement. Le travail, à l'origine, c'est quand même fait pour se nourrir sa famille, etc. Donc, si on commence à renoncer au travail, c'est qu'on considère que, par ailleurs, ce sera compensé, même si on peut dire dans les sondages, oui, qu'on est prêt à plus de frugalité. Je pense que c'est relativement limité, parce que les loisirs, c'est coûteux aussi. Par ailleurs, il y a même le regard...
Ce que dit ce sondage, tout simplement, c'est que les gens ont envie de profiter de la vie autrement que par le biais du travail. Quoi.
Oui, non, mais
c'est...
très bien, mais tout le monde a envie de profiter de la vie.
Oui, mais ça pas... non,
pour
ça n'a pas toujours été le cas.
Faut travailler. Et puis il y a aussi un manque de sens. Moi, je crois qu'il y a un développement du secteur tertiaire qui fait qu'on a perdu un peu le sens du travail. Ça, quand on est agriculteur, on ne se pose pas beaucoup ce genre de questions parce qu'on a un lien à la terre qui fait que, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis c'est tout un mode de vie. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont eu l'impression qu'ils sculptaient la fumée. Vous savez, il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait Les Bullshit Jobs.
Ah, c'est ça le problème.
Exactement. Donc quand vous sortez d'une école de commerce, que vous allez faire un travail où vous sentez, dites, oh là là, je remplis des tableaux Excel toute la journée. D'ailleurs, certains se reconvertissent. Hein, comme boucher, plombier, pour trouver un métier qui a du sens, qui pour le coup est peut-être pas aux 35 heures d'ailleurs, hein, mais parce qu'ils ont sentiment de faire un travail qui n'a pas de
sens.
Exactement.
Bien sûr. Philippe et Régis, pour conclure.
Je vais amplifier ce que dit Gabriel.
Pour une fois.
Il y a une perte de sens du travail qui est très sensible dans les grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Où le travail des cadres, que vous avez tout à fait raison, qu'on a formé dans des écoles, qu'on bac plus 5, ils ne trouvent pas de satisfaction dans un travail qui devient une mécanique de procédure, avec dans le privé des seuils de rentabilité et dans le public des codes de procédure infernaux. Et donc le travail perd son sens. Et donc pour toute une partie de cette génération qui effectivement est beaucoup dans le tertiaire, il y a une perte de sens du travail. Et ça, c'est le phénomène majeur que la pandémie a amplifié, qu'elle n'a non pas révélé, mais qui a servi d'accélérateur à cette prise de conscience. Et donc, on a dans des jeunes générations, effectivement, une perte de la valeur du travail, pas pour les raisons du tout politiques que vous indiquiez, Johan, mais pour des raisons simplement de sens du travail, de ce qu'est devenu le travail dans les grandes organisations aujourd'hui. C'est ça le point essentiel.
Ouais, très vite, pardon.
Non, très, Régis, oui. Très vite, moi je voulais revenir sur ce que disait Johan, et pour dire que, en effet, il faut se méfier, parce que ces idées-là, je dirais, de cette position par rapport à la vision du travail, qui serait une valeur de droite, etc., il y avait des chapelles d'extrême-gauche qui les ont toujours véhiculées. Simplement, à une époque, c'était simplement une tendance qui existait.
Aujourd'hui,
elles sont à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que, potentiellement, où elles sont dans les mairies, écologistes, à Lyon, à Grenoble. Donc elles ont une visibilité plus importante et on peut les retrouver, être discutées. Alors que le sondage en soi, que les gens recherchent plus de loisirs pour profiter de la vie, c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que prendre prétexte de ça pour, je dirais, voir dans le travail une charge dont il faudrait se débarrasser dans une espèce de société hédoniste, etc. On sait qu'on va à la catastrophe avec ça. Et c'est là où il y a une certaine nocivité dans l'utilisation, justement, de ces idéologies qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont à l'Assemblée.
Si vous permettez, je crois vraiment pas que le débat est idéologique, parce que quand vous posez d'autres questions,
quand vous entendez Sandrine Rousseau dire que
quand vous posez d'autres questions,
droite, pour le coup, il est idéologique.
Bon, le droit à la paresse.
Attendez, quand vous posez d'autres questions sur le pouvoir d'achat, ça fait à peu près un an, voire plus, nettement plus, que le pouvoir d'achat est en tête de toutes les préoccupations des Français. Donc selon l'angle sur lequel vous abordez la question du travail, vous allez avoir des gens qui vont dire mais il faut bosser parce qu'il faut que je gagne ma vie.
Il y a encore quelques sujets ensemble. Autour des notions de travail et de cette réforme des retraites. Je voulais juste qu'on évoque un petit instant cette image que vous avez pu apercevoir hier soir avant le débat sur la réforme des retraites de BFM TV. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui a refusé de serrer la main du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Écoutez, comment a réagi, comment a justifié Mathilde Panot de ce non-serrage de main?
Vous avez refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Pourquoi?
Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres.
Vous avez serré la main de M. Véran?
Non.
Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne?
Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi.
D'accord. Ben voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué.
Une certaine idée de la République et des représentants du peuple. C'est la haine ambiante un peu.
Je ne sais pas si c'est de la haine. C'est sûr que c'est sans doute un choix qui est regrettable. Parce que quand on est républicain, on serre la main des autres élus qui s'inscrivent eux aussi dans le cadre de la République, précisément parce qu'ils ont été élus. Donc oui, je pense que c'est une erreur de ne pas le faire. Vous pouvez serrer la main de quelqu'un tout en le combattant très fortement idéologiquement. Ceci dit, il faut reconnaître que les députés de la France insoumise ont une position qui est la même depuis très longtemps. Ils refusent de serrer la main. Moi, je peux aussi vous dire que, par exemple, certains élus de lutte ouvrière, notamment, refusent de serrer la main aux journalistes parce qu'ils estiment que les journalistes sont soumis au grand patronat.
Et les gens de lutte ouvrière qui ont refusé de vous serrer la main déjà?
Oui, absolument. Ah ouais, oui, durant une campagne présidentielle, et pour avoir reçu des différents candidats, etc. Ils vous disent clairement qu'effectivement, ils ne serrent pas la main de certains journalistes.
Mais ces attitudes sectaires, quand elles étaient à lutte ouvrière depuis toujours, il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est quand même plus proéminent. On voit ces attitudes sectaires.
Ça nous a tous rappelé. Moi, ça m'a rappelé deux épisodes. Déjà, l'épisode Louis Boyard, Philippe Ballard. Au tout début de la mandature, lorsque le jeune député, donc LFI, a refusé de serrer la main du député RN qui lui tendait la sienne. C'était l'une des images de la fin de l'été, d'ailleurs, enfin du milieu de l'été. C'était fin juin. Et puis ça m'a rappelé également cette fois où le député LFI avait refusé, vous savez, de disputer un match de foot de l'équipe de France de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait des joueurs députés RN également, par peur de banaliser l'extrême droite.
Mais Marion,
partager un match de foot ou serrer une main, ça ne veut pas dire forcément cautionner des idées, Gabriel.
Non, mais c'est une espèce de posture.
Ils croient qu'ils font un geste fort, en fait, en agissant comme ça.
C'était un peu amusant, l'épisode, parce que, en fait, elle a commencé dans sa rhétorique habituelle, qui est celle de la France insoumise et de l'ultra-gauche, on ne serre pas la main à la bête immonde, etc. Puis après, il lui a dit, vous allez serrer la main à Véran. Elle s'est dit, oula, réforme des retraites, c'est aussi une bête immonde. Donc non, je ne vais pas serrer la main. Elle a la chance d'être une femme, parce que quand les hommes ne serrent pas la main aux femmes, On les regarde d'un drôle d'air. Là, dans ce sens-là, visiblement, c'est pas grave. Donc, c'est quand même très usé. On dirait une vieille, un vieux tube des années 80, vous savez. Donc, bon, voilà, ça devient un peu grotesque parce que, de fait, là, du coup, elle était face aux deux. Je vous ai dit bonjour quand même. Je sais pas, les embrasser, du coup, je sais pas.
C'est non, c'est que, non, mais ce qu'elle veut prouver surtout, quoi. On est vraiment, Philippe, qu'est-ce que vous en dites, vous c'est vraiment un esprit cours d'école.
Je trouve ça plus ridicule que très significatif. Hein. Je trouve que c'est bébête comme attitude.
Mais ridicule, plus ridicule, plus ridicule, ça commence à faire beaucoup.
C'est peut-être significatif d'une chose, c'est que je trouve que cette gauche-là, qui s'est enfoncée quand même assez loin dans des attitudes pas loin du gauchisme ou confinant au gauchisme, a tellement perdu d'argumentation, a tellement perdu de prestige qu'elle se croit obligée d'avoir des attitudes aussi mal polies et ridicules pour jouer vraiment à l'antifascisme. Mais ce qui serait plus important, ce qu'il faut leur dire, c'est que ça serait plus important d'avoir des arguments un peu sérieux contre le Rassemblement national s'ils veulent combattre le Rassemblement national, que c'est le genre d'attitude est presque, j'allais dire infantile, c'est peut-être un peu excessif. Mais,
bah, j'ai parlé de cours d'école, donc on se comprend un peu.
Il y a une forme d'immaturité, je suis d'accord.
Ouais, c'est une forme d'immaturité.
Immaturité démocratique.
C'est une question de principe, on ne serre pas la main.
Non, mais c'est pas, je trouve même que c'est un peu, j'allais dire, dangereux, un peu sur la question de la paix sociale aussi, parce que quand vous êtes en démocratie, il me semble que vous devez accepter que vous avez des adversaires idéologiques. Donc, oui, vous n'allez pas faire la kermesse avec eux, mais en échange, vous allez pouvoir débattre d'idées, combattre les
idées. Il ne s'agit pas de partir en vacances ensemble, il s'agit de se saluer.
Exactement. Donc, je pense qu'il y a un mépris, c'est un manque de respect envers la démocratie, envers les électeurs également.
On ne s'attarde pas plus longtemps sur ce que beaucoup appelleront une anecdote. Le Sénat examine depuis aujourd'hui la loi sur l'organisation des Jeux Olympiques auront lieu, ça ne vous a pas échappé, à Paris. À partir de juin 2024, un événement majeur, planétaire, qui va attirer des milliers d'athlètes, 600 000 personnes attendues pour la cérémonie d'ouverture le long des quais de Seine, 13 millions de spectateurs sur les 3 semaines de compétition. Est-ce que la France est prête en matière de sécurité à 548 jours de l'événement? La réponse est non. Et la preuve avec Alexis Vallée.
Il serait 22 000. 22 000 agents manquants pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Des recrutements ont été lancés par les organisateurs, mais seulement 11 à 12 000 personnes répondraient aux critères, notamment celui d'avoir 5 ans de titre de séjour. Pour combler ce manque d'effectifs, le recours à l'armée serait une hypothèse envisagée. Hier soir, face aux sénateurs, Gérald Darmanin a expliqué qu'il faudrait attendre février ou mars pour en savoir plus. À cette insuffisance, un autre problème subsiste, l'hébergement de ces forces de sécurité.
Il va falloir que nous hébergeons à Paris et dans sa proche banlieue 35 à 40 000 policiers et gendarmes et quelques milliers d'agents de sécurité privée qui ne seraient pas parisiens. Donc d'abord, ce n'est pas tellement une question d'hommes et de femmes, c'est une question où est-ce qu'on les loge.
Le Sénat a voté hier la mise en place de scanners corporels et de caméras permettant de détecter, grâce à une intelligence artificielle, des mouvements suspects dans les foules. Un moyen de faire face au manque d'effectifs.
Les Jeux approchent et on n'est pas encore sûr d'avoir les personnels nécessaires en matière de sécurité. Les entreprises de sécurité qui chargent entre 12 et 20 000 agents supplémentaires. C'est pas comme si c'était un événement organisé en dernière minute, Johan. Pardon de commencer par vous, hein, je ne sais pas si...
Non, mais je suis assez confiant, moi.
Voyez-vous. Ah bon?
Oui.
Ah, vous êtes assez naïf, surtout.
Oui, non, excusez-moi, non, je ne crois pas, pardon. Mais, non, je suis assez confiant parce que...
Sur quoi? Sur le fait de les recruter? Sur le fait que ça se passe bien?
Sur le fait que ça se passe bien, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si ça se passe mal, c'est dramatique. Donc, j'imagine que le gouvernement va trouver la solution, parce qu'il n'a pas le choix, en réalité. Alors, l'armée, de toute façon, sera partie prenante de ces Jeux Olympiques. Ne serait-ce qu'avec 100 sentinelles qui patrouillera dans les rues, armes à la main, effectivement, que l'armée va être mobilisée. Mais l'armée ne pourra pas fouiller les personnes à l'entrée des stades, à l'entrée des lieux de compétition. Mais je crois que le gouvernement, manifestement, a quand même d'autres possibilités. Alors, est-ce qu'on peut recruter à l'étranger? Enfin, je ne sais pas. Mais j'imagine toutes les possibilités parce que je me dis, on joue tellement gros dans cette affaire. Paris,
mais Johan, vous avez vu Gérald Darmanin, il n'a même pas anticipé le logement des forces de sécurité.
Non, mais
vous
attendez. 35 000.
agents de force de l'ordre, de sécurité privée ou publique d'ailleurs, ils vivent dans un département, ils ne savent même pas à l'heure où on se parle, où est-ce qu'ils vont les loger.
Mais c'est dans un an et demi.
Ah, vous avez trouvé 35 000 logements en un an et demi? Vous croyez qu'il n'y a pas d'autre chose à penser?
Attendez, Julien, nous sommes en France, pardon.
Ah d'accord.
On va trouver.
Mais il ne s'agit pas des loger à Limoges, parce que les jeux.
Non mais j'entends bien. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris, en Île-de-France, à 12 millions d'habitants. On va trouver 35 logements.
Il y a 13 millions de spectateurs attendus aussi. Les hôtels seront pleins.
J'entends bien. C'est dans 18 mois. Je pense qu'il faut raison garder. Il faut quand même ne pas trop angoisser les Français.
Non, parce que on verra bien. Il y a 6 mois, j'ai vu une finale de Ligue des Champions au Stade de France.
Mais ça n'est pas le même enjeu.
Et à l'époque, on avait déjà parlé. C'est là où c'est aucune comparaison, mais il n'empêche qu'à l'époque, quand il y avait.
Ça a été organisé à la toute dernière minute. C'est pas un événement mondial.
Je vais juste dire quelque chose. À l'époque, on avait mis sur le. On avait expliqué, il y a les JO, il va peut-être falloir s'y mettre, on n'a pas la sécurité suffisante, et on se rend compte que 6 mois plus tard, on en est toujours au même point. C'est-à-dire on est toujours à explorer des pistes pour essayer d'avoir le nombre d'agents de sécurité suffisant qu'on n'avait pas à l'époque. On s'est interrogé quand il y a eu le fiasco du Stade de France. Donc on n'en a pas tiré de leçon, où visiblement il y a des gens qui ne travaillent pas.
Et il y a également cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu, vous le savez, de façon inédite tout le long de la Seine. Il y a 6 mois, il y a quand même quelqu'un qui est assez important en matière de criminologie, qu'on écoute dans ce pays, qui s'appelle Alain Bauer. Il y a 6 mois, Alain Bauer a quand même expliqué, et je cite ses mots à la lettre, que la cérémonie serait un crime. C'est un mot qui est quand même fort. S'il y avait un attentat ou un mouvement de foule, ce serait extrêmement dangereux. Personne ne réagit. Ce caprice politique qu'est la cérémonie le long des quais de Seine est maintenu. Et un an et demi,
mais c'est pas un caprice politique.
C'est pas un caprice politique, la cérémonie d'ouverture le long des quais de Seine.
C'est pour faire rayonner la France, excusez-moi.
Mais Paris n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour rayonner. Je rappelle que vous habitez dans la ville la plus touristique du monde.
Eh bien, je crois que Paris a quand même bien besoin de rayonner en ce moment. Et effectivement, organiser ce qui pourrait être l'une des plus belles cérémonies d'ouverture jamais organisées. Moi, je crois que c'est un beau défi. Ça n'est pas un caprice, c'est un beau défi.
On a voulu voir les choses en grand, ouais, encore faut-il en avoir les moyens, Philippe.
Je trouve très inquiet, Julien. Là.
Je suis inquiet par nature, déjà.
Oui, mais c'est mauvais, vous savez que c'est mauvais pour votre santé.
Je le constate chaque jour.
Mais non, mais...
Allez-y.
Non, on serait dans un an à 6 mois de l'événement, je partagerai votre inquiétude.
Donc tout va très bien, madame la marquise.
Je ne sais pas si tout va très bien, je dis qu'il reste 18 mois... Et que c'est quand même pas mal de se lancer. Moi, je vous rejoins là, Johan. Je trouve que c'est pas mal de se lancer des défis comme ça.
D'accord.
Bah de toute façon, maintenant, vous avez plus le choix.
C'est ma phrase. Voir les choses en grand, c'est
ça passe,
très bien.
Ça casse.
Non, parce que c'est
encore
pas mal quand même d'avoir des éléments d'optimisme, de rassemblement, de joie.
Non, mais quand la décision a été prise, vous avez déterminé que vous aviez les moyens. Donc, je pense effectivement, c'est dans 18 mois. Je suis d'accord quand même que souvent, on a reproché au gouvernement le manque d'anticipation. Donc, c'est un peu de ça dont on parle maintenant. Cela dit, je pense que c'est pas la première fois quand on parle des Jeux Olympiques. Il y a toujours de l'inquiétude un an et demi avant, quelques mois avant. On a toujours l'impression qu'on va jamais y arriver. Et finalement, les fils s'attachent. Mais des fois, on y arrive même.
Non, mais pardon, il y a quand même En 98, quand on organisait la Coupe du Monde, c'était pareil. Il y avait aussi déjà
mais parfois,
oui, mais on
n'avait
pas connu des vagues d'attentats comme c'est le cas ces dernières années. Il n'y avait peut-être pas autant de forces contraires parce que d'un point de vue sécuritaire, quand vous avez la CNIL qui est là à se demander si la reconnaissance faciale n'est pas une atteinte grave à la liberté dans un pays qui a connu le terrorisme, qui est en alerte maximale, pardon, je me dis que oui, entre le Conseil d'État, la CNIL et certains organismes publics, on tire pas tous dans le même sens pour que ces jeux se passent de la meilleure manière possible, Gabriel Cluzel.
Qui en parle en connaissance de cause, c'est quand même ceux qui sont responsables de boîtes de sécurité civile et qui disent qu'objectivement, ils n'arriveront pas à fournir. Enfin, certains disent qu'ils auront beaucoup de mal à fournir. Je ne sais pas.
Non, mais c'est bien qu'on en passe très bien. Il y a 18 mois pour régler les problèmes.
Il faut voir les profils des agents de sécurité. Parce que si vous les recrutez au dernier moment, vous allez laisser passer des profils qui sont peut-être à risque, des gens fichés que vous avez.
On se souvient du recrutement des stadiers en Seine-Saint-Denis. Pardon, mais c'était quand même un galop d'essai. C'est un galop d'essai qui s'est mal passé. On peut peut-être dire que c'est pas la même chose.
Soyons positifs. Regardez d'autres événements.
Non, parce que si on se plante, alors là, c'est pas Paris qui va rayonner.
Vous avez raison. Vous avez raison, et Darmanin joue sa peau politique sur cette affaire.
Je ne sais pas, plus personne ne démissionne de nos jours.
Si vous ratez les JO...
Ça vaut des promotions, ça lui a valu une promotion, hein, Gérard Darmanin, je vous rappelle.
Si vous ratez les JO du point de vue de la sécurité, la carrière politique de Darmanin me semble...
Tiens, tout dernier mot sur les...
Je voulais juste citer deux inquiétudes qu'on a eues. oui. qui ne se sont pas révélés tout à fait justes. La manifestation de jeudi dernier, tout le monde craignait des débordements et des violences. Il y en a eu très peu.
Parce que le dispositif des forces de l'ordre et les syndicats ont joué le jeu également.
Exactement. Donc ça veut dire qu'on sait apprendre aussi de
temps en temps. Non, mais c'est bien qu'on pose les questions maintenant.
Donc c'est bien de poser les questions, c'est normal de poser les questions, mais ne soyons pas paniqués.
On parlait de la relation entre les alliés et l'Ukraine tout à l'heure en début d'émission. Je voudrais redire un mot du président Zelensky, notamment, et à propos des Jeux Olympiques, parce que vous savez qu'il a parlé à Emmanuel Macron au téléphone hier, autour des chars, hein, dont on a parlé en début d'émission. Mais il a demandé également, j'ai souligné que les athlètes russes ne devraient pas participer à Paris 2024. Écoutez ce qu'en dit David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France.
Je crois que le sport, qui a toujours une dimension politique, mais que les athlètes de tous les pays, si on commence à sélectionner les athlètes au vu des guerres et des agressions et du non-respect des droits de l'homme, on va se mettre le monde à dos et ça n'a aucun sens. Autant je suis très clair sur la situation et la Russie agresse l'Ukraine et il faut soutenir l'Ukraine et je l'ai dit et rappelé et démontré. Donc il n'y a aucune ambiguïté de ma part là-dessus. En revanche, ce type d'approche qui vise à pénaliser les sportifs, je pense que ça n'a aucun effet. Au contraire, ça n'a que des contre-effets.
Avec ou sans les Russes au JO, est-ce que c'est à Volodymyr Zelensky de formuler cette requête ?
Non, autant on peut soutenir son combat et c'est mon cas. Autant je trouve que là, sa réflexion me paraît déplacée. D'abord parce qu'il n'a pas à se mêler des Jeux Olympiques.
C'est le CIO a priori.
Je trouve qu'il a déjà pas mal de choses à faire et il le fait plutôt bien et il faut le féliciter. Mais là, sur les JO, je trouve qu'il devrait passer son tour.
On nous a expliqué au Qatar qu'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. Donc il ne faut pas mélanger le sport et la politique. À un moment, il faut avoir une ligne cohérente pour tout le monde.
Un dernier mot là-dessus ?
Non, mais c'est sur la question quand on commence à viser donc des civils. C'est encore cette question-là, ou même des artistes. Il y a eu cette réflexion. Est-ce qu'on bannit les artistes? Il n'y a plus de limite. Non, moi, je pense qu'effectivement,
on distingue. J'avais vu il y a quelques mois, c'était choses. Même, je crois, les concours de chats où les Russes étaient interdits.
C'est le but des sanctions, de sanctionner aussi les civils russes. D'ailleurs, ils ne peuvent plus voyager librement en Europe et dans tout un tas de pays.
Mais encore une fois,
le but, c'est prénaliment de pénaliser les civils.
Non, mais il y a un truc particulier autour des Jeux Olympiques, ça s'appelle la trêve olympique. La trêve olympique, c'est quelque chose.
De l'olympisme, pardon, c'est aussi la paix, c'est aussi voilà, tout un tas de valeurs véhiculées par les JO que la Russie ne véhicule à l'évidence pas. Donc on peut
déjà, je pense que s'il y a des athlètes russes, comme c'est le cas sur les différentes compétitions depuis un an, ils seront sur bannière neutre. Et en l'occurrence, ce sont des sportifs qui dédient leur vie au haut niveau, qui sont a priori.
Je pense que c'est notre opinion est aussi une opinion qui se tient.
Ça se discute.
Non, mais à ce stade, est-ce qu'on voit aussi, par exemple, des personnes d'origine russe qui vont travailler ici, à Paris, pendant les Jeux Olympiques, on va aussi leur dire de partir? C'est pour ça que je me méfie quand même de ça.
Le pape s'est exprimé. Quand le pape parle, on l'écoute. Et on va décrypter ce qu'il a dit sur l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas un crime, mais c'est un péché. Allez comprendre, on va en discuter dans une minute. Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité.
Le trafic reprendra presque normalement demain à la gare de l'Est. Information à confirmer par la SNCF après 2 jours de réparation. 3 TGV sur 4 sont prévus. Mardi, des câbles électriques ont été endommagés par un acte de sabotage. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête. Le président de la Ligue nationale de handball démissionne. Bruno Martini est condamné à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 2500 euros. Il est reconnu coupable de corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Bruno Martini avait été champion du monde avec les Bleus en 1995 et 2001. Et puis au moins 2 morts et 7 blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Le motif de l'agression n'est pas encore connu. Toutes les pistes sont étudiées par la police.
Le pape François qui réaffirme, merci beaucoup Adrien tout à l'heure, le pape François qui réaffirme la doctrine de l'Église, s'il a estimé dans une interview hier avec l'agence de presse américaine Associated Press que les lois pénalisant l'homosexualité à travers le monde étaient injustes, il a aussi déclaré que cette orientation sexuelle était un péché. Être homosexuel n'est pas un crime, dit-il, mais c'est un péché. Or, il faut distinguer les deux. Le manque de charité, c'est un péché aussi. La condamnation de l'homosexualité vient de très loin. Et aujourd'hui, par exemple, je pense que les pays qui prévoient des condamnations légales sont plus de 50, avec une dizaine prévoyant la peine de mort. Il y a des pays qui ont cette tendance, ou du moins cette culture, et je pense que c'est injuste. Donc il dit un peu de choses. Et je voulais m'arrêter là-dessus parce que je voulais avoir vos avis déjà. Regardez ce qu'en disent certaines politiques, et notamment très à gauche, Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, les deux têtes fortes d'Europe Écologie Les Verts, et beaucoup de chrétiens considèrent que cette phrase aurait utilement dû s'arrêter à pas un crime. C'est une réflexion que je me suis faite, pour être très honnête. Sandrine Rousseau qui dit « Ni l'un ni l'autre et les LGBTQIA ne vous retrouveront au paradis ». Gabriel Cluzel ou Philippe, pour commencer, un commentaire.
Moi, je me suis sûr de la correction grammaticale de la phrase de Sandrine
Rousseau. J'ai pas bien. Vous avez vu, je l'ai mal lu d'ailleurs, parce que moi-même j'ai du mal à la comprendre.
Je suis pas sûr qu'elle soit voilà. Mais c'est sur le fond.
Être homosexuel n'est pas un crime, mais c'est un péché. Comment appréhendez-vous, recevez-vous ces propos ?
Du point de vue de nos sociétés sécularisées, qui ont promu la liberté individuelle, qui dans nombre de pays ont reconnu le mariage homosexuel, la phrase du pape paraît, pour des gens qui soient croyants ou non-croyants, quelque peu lunaire, c'est-à-dire de dire la tendance dans nos sociétés européenne et occidentale de manière générale, et de considérer que l'homosexualité est une orientation sexuelle qui n'a pas à être discriminée. Donc, alors moi, je ne suis pas théologien, et je peux comprendre
En gros, dans la religion, racine. L'homosexualité est un péché parce que c'est une orientation sexuelle contre nature, selon la religion.
Non mais
pourquoi est-ce qu'il a besoin de rappeler
là,
que c'est un péché
dit, là. Pardon, c'est pas un scoop, hein. Je sais pas, ils veulent faire
il s'agit
quoi
pas de dire
les
que
députés
c'est un scoop.
De la France insoumise, ils vont faire un autodafé du catéchisme parce que c'est le péché, c'est une notion religieuse, ça fait partie du champ sémantique religieux. Pour les autres, ça n'a aucune importance. Marine Tondelier, si elle est pas catholique, ça, j'ai envie de dire, ça lui fait une belle jambe parce que.
Et pour un homosexuel pape, qui a la foi.
Alors là, il y a une affaire de conscience. Mais ce que je veux dire, c'est que vous vous placez sur un plan religieux. Confondre crime et péché, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je suis même choquée que les députés de la France insoumise aillent chercher des poux dans la tête du pape, parce que la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Charte des droits de l'homme, et le péché, ça procède de la liberté de conscience. Le péché dans l'Église, il y en a de toutes sortes. Prenez vos selles.
Le manque de charité est un péché.
Voilà,
aussi.
Je vais vous faire tomber de l'armoire, mais aujourd'hui, dans le catéchisme de l'Église catholique, l'adultère, c'est un péché. Voilà. Et or, vous savez ce que le Christ avait dit à la femme adultère, ouais. Qui s'apprêtait à être lapidée, des gens voulaient la lapider, il avait dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc voilà la conception du péché. Donc
Est-ce que les protestants disent la même chose ?
Pardon ?
Les chrétiens protestants disent la même chose.
Bon, et donc si vous voulez aller chercher des noises au pape, alors qu'à la base sa communication c'était sur le fait que.
En l'occurrence, le pape est l'autorité des catholiques.
Pardon, il y a une douzaine de pays qui aujourd'hui condamnent les homosexuels à la lapidation, à la pendaison, à tout ce que vous voulez, et ce qui me heurte et qui me frappe, c'est que dès que le pape dit quelque chose qui ne convient pas à nos députés, chers députés que vous avez cités,
on a mis les réactions, mais on aurait pu se passer des réactions. Et Johan, vous allez
non, non, mais c'est quand même intéressant.
Moi, la question que je me suis posée en voyant ça, c'est il dénonce les pays homophobes, les pays qui interdisent l'homosexualité, mais il a besoin de rappeler que c'est un péché. Je me demande si en 2023, le pape a besoin de rappeler la position officielle de l'Église comme ça.
La position officielle de l'Église, ça a toujours été de dire que c'était un péché. Je veux dire, il n'y a pas d'évolution. Oui. C'est pour ça qu'en Gabriel dit que c'est pas un scoop.
Le pape,
par contre, le fait qu'il dise qu'il ait besoin d'exprimer.
Donc c'est un pas en arrière, ce qu'il dit alors. Vers les communautés LGBT.
Ça veut dire qu'il rappelle que les homosexuels sont discriminés, que dans certains pays, il y a la peine de mort pour eux. C'est un discours qui n'est pas ordinaire pour un pape.
Mais vous comprenez que pour quelqu'un qui est profane ou éloigné de la religion, entendre la plus haute figure du catholicisme rappeler que l'homosexualité est un péché, ça peut heurter, ça peut heurter certaines sensibilités. Yoann Uzaï.
Ça peut choquer parce que ça peut être perçu comme une forme d'homophobie ou un encouragement pour les personnes homophobes à poursuivre dans cette voie-là et dans cette discrimination. Mais Gabriel a raison de dire qu'effectivement on ne découvre pas la lune aujourd'hui.
Non, c'est pas
quelque chose de tout à fait nouveau. Voyez-vous, ce qui m'a interpellé moi, c'est que le pape utilise le terme de conversion. Parce que dans cette interview, il parle de conversion.
Oui. Alors, il dit, interrogé sur l'attitude des prêtres qui soutiennent les discriminations envers les LGBT, il estime qu'il devrait plutôt engager un processus de conversion et avoir de la tendresse.
Et ça, pardon, c'est extrêmement choquant parce que, d'abord, je rappelle que les thérapies de conversion en France sont heureusement interdites. Et là, pour le coup, on se place sur quelque chose qui est, me semble-t-il, oui, c'est grave de la part d'une autorité de dire cela, parler de conversion, enfin, comme l'homosexualité est donc une maladie.
Il dit aussi d'avoir de la tendresse. Pas, il dit avoir de la tendresse.
Johan, tout le monde se convertit. Hein. Je pense que là aussi, c'est parce qu'on a tellement, on s'est tellement, éloigné de l'Église, de la foi catholique.
Attendez, mais je ne sais pas si vous avez pas mal compris, Johan, parce que je suis en train de relire la phrase.
C'est moi, on se convertit tous. C'est un chemin de conversion, la foi. Donc, je ne suis pas sûre que appliquer.
Ça va aux prêtres.
Interroger. Pardon d'insister là-dessus, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il est interrogé sur l'attitude des prêtres qui soutiennent les discriminations envers les personnes LGBT, le pape estime qu'il devrait plutôt engager un processus de conversion et avoir de la tendresse.
Donc convertir
en tolérant envers les LGBT. Moi, c'est ça que je comprends.
Alors, dans ce cas-là, c'est différent. Mais moi, ce terme-là m'avait interpellé.
Non, mais je connais aucun prêtre qui déteste les homosexuels. Non, mais je voudrais terminer sur ce sujet. Qui déteste les homosexuels. Ou alors,
mais
c'est
pas
un prêtre parce que les prêtres aiment tous les hommes et veulent les appeler à se convertir.
Allez, dernier mot.
Mais pas au se convertir au sens où vous l'entendez.
Alors, j'ai mal compris et c'est très heureux qu'il l'ait dit dans ce sens-là. C'est très bien.
Il nous reste très peu de temps, Philippe. Un dernier mot.
Juste une question. Vous dites, c'est pas un scoop. C'est ancien dans l'Église catholique.
C'est la position officielle.
Oui, mais je constate que les églises protestantes, enfin en tout cas certaines d'entre elles, vont même jusqu'à bénir des mariages homosexuels. Et donc ça veut dire que dans l'attitude chrétienne, il peut y avoir des évolutions théologiques. Et que l'Église catholique est peut-être très conservatrice sur ce point.
Non, mais chez les protestants, pas un scoop non plus.
Philippe, vous ne pouvez pas dire les protestants. C'est tellement une galaxie avec des extrémistes qui vont condamner les homosexuels et d'autres.
On reprendra éventuellement la discussion ultérieurement.
Les protestants ont raison, les catholiques ont tort.
C'est pas ce que j'ai dit. La dernière image, l'Église protestante.
La dernière image, Philippe. Et d'ailleurs, je vais faire un lien entre notre dernier thème et notre dernière image. Je crois que c'est Jeanne Calment qui disait, l'ancienne doyenne de l'humanité, qui disait « J'ai été oublié par le bon Dieu ». Vous vous souvenez? Eh bien, le bon Dieu, il a oublié deux autres personnes, en l'occurrence Francesca et Maria. Regardez-les. Passer les 100 ans, c'est déjà beau. Mais quand il s'agit de jumelles, c'est encore plus impressionnant. 200 ans à elles deux, donc. Leurs proches et leurs 50 petits-enfants. Les gens que vous allez voir sont leurs 50 petits-enfants et arrière-petits-enfants qui ont décidé de marquer le coup avec ce magnifique gâteau pour leur anniversaire. Ça s'est passé hier en Italie. Le maire qui remet le cadre est d'ailleurs un des petits-enfants de Francesca et Maria. Elles sont nées le 23 janvier 1923. Elles n'ont pas eu la vie facile. Hein. Francesca et Maria ont travaillé toute leur vie. Carrière longue, comme on dit. Le travail, ça paye et c'est la santé. Elles ont travaillé toute leur vie dans les champs en tant qu'agricultrices, comme brodeuses également. Elles n'ont jamais quitté leur petit village d'Anzano di Puglia, en Italie. Donc chapeau, un bisou à Francesca et Maria. 200 ans à eux deux.
Sœur André, vous restez à la fois dans l'eau bénite et dans les centenaires.
Oui.
Sœur André, qui était notre... qui est morte, là,
qui était doyenne.
C'était très touchant parce qu'elle avait une sœur jumelle qui était morte à 18 mois.
Ah oui.
Et elle disait, elle me manque encore à 100 ans. Wow. Voilà. Elle disait, je vais bientôt la retrouver. Donc le lien des jumelles, c'est quelque chose de
mystérieux. Ces deux sœurs ne se quittent pas depuis 100 ans.
Sur le travail, ça ne vaut pas. Parce que
ça doit être fatigant quand même de les avoir. Avoir quelqu'un sur le dos pendant 100 ans quand même, pardon, mais je suis pas sûr moi. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Thomas Leroy qui a préparé cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour Soir Info, à suivre l'heure des livres, l'édition de la nuit de Simon Guilin. Bonne nuit.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.